Bonsoir à tous et à toutes, bienvenue dans votre émission féministe mensuelle, y a pas que 8 mars. Bonsoir Joël.
Bonsoir à toi.
Nous sommes le lundi 2 mars, le week-end prolongé de Pâques s'achève, et oui, avec peut-être son lot de disputes houleuses concernant la politique, comme on sait bien les faire en famille. Mais surtout, mesdames, je vous entends d'ici culpabiliser, j'ai mangé trop de chocolat, j'aurais dû faire attention. Marilyn Monroe vous répond, à toutes les femmes qui se trouvent grosses car elles ne font pas du 34, vous êtes toutes belles, c'est la société qui est moche. Merci Marilyn, nous voilà rassurées. Ce soir, on vous propose de savourer tranquillement votre fin de week-end à l'écoute de Radio B. On va parler de quoi ce soir, Joël ?
Alors, au sommaire, ce soir, le portrait d'Anaïs, une pensée féministe qui est en train de se construire. Un thème, éducation à la sexualité dans les écoles, et oui, ça existe, tout un programme. Droit devant la revue de nos actus et la rubrique, toujours, rubrique culturelle.
Le portrait. Ce mois-ci, on est parti à la rencontre d'Anaïs. Alors, ce qui nous a intéressé chez Anaïs, c'est qu'elle se définit comme féministe, mais pas militante. Alors, ça nous a beaucoup interrogé. Qu'est-ce qui fait qu'on ne se sent pas militante ? On écoute Anaïs qui commence par nous raconter comment est né son sentiment d'injustice entre les femmes et les hommes.
J'ai toujours eu un sentiment de différence entre les hommes et les femmes. Et je peux plus ou moins dater ça de l'enfance. On va dire, je sais pas, peut-être l'âge de raison, 7-8 ans, quand on prend un petit peu conscience du monde. Enfin, en tout cas, moi, ça s'est passé comme ça. Et je me suis dit, j'ai quand même pas de chance, je suis née fille, et si j'étais née garçon, ça aurait été plus facile, parce que je voyais bien qu'autour de moi, ben, je voyais que les garçons et les hommes avaient une vie assez facile, et que les femmes avaient... beaucoup plus de contraintes et que pour une femme, eh ben, il fallait aller au travail la journée, s'occuper des enfants avant, s'occuper des enfants en rentrant. Même si on n'avait pas d'enfants, il fallait s'occuper de faire à manger, il fallait s'occuper de la maison et toutes ces choses-là. Et c'était pas du tout une question de genre, de me questionner moi en tant qu'homme ou femme, mais c'était vraiment de me dire, bah mince quoi, j'avais une chance sur deux, j'ai tiré le mauvais numéro, ça va être un petit peu plus compliqué pour moi que si j'avais été un garçon. Et par la suite, oui, il y a un événement qui m'a fait aussi me poser un petit peu plus de questions en détail. J'ai eu l'occasion de faire un voyage dans ma famille en Algérie et j'ai vu notamment la condition de vie de mes cousines. Alors là, je ne parle pas pour l'Algérie entière, hein, je parle juste dans ma famille, à cet endroit de l'Algérie précisément. Et la vie de mes cousines, ça se résume à mettre son réveil à 6h du matin pour faire le ménage, préparer la galette, faire à manger. Et une fois que tout ça s'est fait, on attend gentiment que les hommes se lèvent et réclament leur café. Elles ne sont pas forcément tous comme ça, mais il y en a qui le sont. Et ouais, moi, ça m'a donné le tournis. Je me suis dit, oulala, mais c'est juste mes cousines. Enfin, l'écart.
On a le même âge, c'est ça.
Même génération, ouais. On a des gènes communs, et moi je ne vis pas ce qu'elles vivent, et j'ai de la chance, je veux en profiter, et je me suis aussi dit que si nous, même si la condition des femmes n'est pas parfaite en France et loin de là, on est quand même à la pointe des droits des femmes, même si on pourrait rediscuter de ce point-là, mais... Et je me suis dit, oulala, mais si nous, on lutte pas et on conserve pas, parce qu'on voit bien qu'il y a des choses qui sont pas acquises définitivement, elles y arriveront vraiment jamais, quoi. On n'est pas sûr qu'elles y arrivent, mais alors si nous, on lâche, c'est sûr qu'elles y arriveront jamais.
T'as participé à plusieurs réunions du collectif féministe depuis quelques mois. Est-ce qu'aujourd'hui, tu te définis comme une militante féministe ?
Je me définis pas comme une militante, mais... peut-être comme une féministe, oui.
Alors, c'est quoi ? Tu fais quoi comme différence entre militante et féministe ?
Bah, pour moi, quelqu'un de militant, que ce soit pour du féminisme ou une autre cause, c'est quelqu'un qui agit, qui porte une parole, qui la défend et qui mène des actions en faveur de la cause qu'il veut défendre. Moi, je ne me considère pas militante parce que, oui, là, j'ai assisté plusieurs fois... des réunions, mais je n'agis pas, enfin je viens, je participe, j'observe, mais concrètement je ne vais pas porter une parole ou des actions. Parce que pour moi, après, je peux être féministe, moi, dans ma vie, dans mon quotidien, mais ça, c'est à mon échelle, dans ma sphère à moi. Mais pour moi, le militantisme, on va en dehors de chez soi, on va ailleurs. Et moi, je ne le fais pas et je ne me sens pas capable non plus de le faire.
Pourquoi pas capable ?
Ben parce que avant d'aller porter une parole, il faut en être convaincu. Enfin, il me semble, en tout cas, moi j'aurais du mal à porter une parole pour laquelle je ne suis pas convaincue. Et je suis convaincue par le féminisme, mais c'est assez complexe. Et pour moi, une réflexion ou une pensée, une idée, c'est jamais figé, c'est toujours évolutif, ça peut évoluer. Alors ça peut, en tout cas, ça se remet en question. On peut garder la même idée, mais moi, je ne peux pas concevoir une idée figée, définitive, même si je peux la garder, mais je vais la remettre en question. Et aussi, pour moi, avant de me faire une idée sur une question, j'ai besoin de temps, j'ai besoin de mûrir ma réflexion, j'ai besoin de prendre plusieurs avis, plusieurs questions. De moi-même, je peux avoir une petite idée sur des choses, mais si je veux aller la défendre, il faut que j'en sois vraiment convaincue et que j'ai pu vraiment étudier tous les tableaux. Et quand je me pose des questions, et je m'en pose vraiment beaucoup sur beaucoup de choses tout le temps, j'ai toujours peur de manquer une dimension, de rater quelque chose. Et l'autre aspect aussi, c'est qui je suis, moi, Anaïs, pour dire que ceci est bien ou pas bien.
Du coup, je voudrais juste revenir par rapport à ce que tu disais avant. Tu disais que tu avais besoin de te faire ton idée, de bien réfléchir, etc. Du coup, tu penses que les espaces de formation féministe, enfin, quand je dis formation, de réflexion, etc., est-ce que c'est important pour toi ?
Ben oui, c'est sûr. Parce que, à moi toute seule, je ne suis pas capable, en tout cas, je ne me sens pas capable d'élaborer des idées, des pensées. Moi, souvent, quand je discute avec des gens sur un sujet, j'aime bien aussi me faire un petit peu l'avocat du diable, parce que, ben voilà, on peut toujours avoir plusieurs arguments. Ça ne veut pas dire que je vais penser ma question, que je vais y croire, mais... Oui, mais toi tu me dis ça, mais on pourrait penser ça, et c'est comme ça pour moi qu'une pensée elle se construit.
Est-ce que tu penses qu'il faut avoir une pensée arrêtée, fixe, claire sur un sujet pour pouvoir militer ?
Alors c'est intéressant comme question. Moi je pense pas qu'on puisse avoir justement une idée hyper fixe. Et du coup, je vois. Enfin, ouais, c'est tout le paradoxe pour moi. Aller militer, défendre une idée, enfin, si je vais défendre une idée, faut que je l'aie cette idée. Et qu'il faut que j'en sois assez convaincue. Mais pour moi, c'est compliqué d'avoir une idée hyper fixe. En tout cas, fixe, je veux dire, je veux pas dire aujourd'hui j'ai cette idée et je sais que je vais l'avoir pendant un an ou deux ans ou trois ans et qu'elle va pas bouger. En fait, c'est ça. Je suis pas sûre que je puisse avoir... Peut-être qu'elle le sera et qu'elle va durer dans le temps, cette idée, mais je suis pas capable de le savoir d'avance et peut-être que d'autres idées, d'autres événements, d'autres choses viendront faire évoluer cette idée et cette pensée.
Moi, je me pose quand même cette question-là. Ça m'étonne, parce que si on se dit à un moment féministe, même chez soi, hein, dans sa tête, c'est qu'il me semble qu'on a des valeurs quand même.
Oui, c'est sûr, mais il n'y a qu'à voir. Je ne sais pas, je ne vais donner aucun avis et aucune réponse sur cette question, mais je la choisis parce qu'elle peut vite déchaîner des passions. On pourrait prendre, je ne sais pas, les 10 féministes, les plus convaincus à 100 km à la ronde, vous allez par exemple lui poser la question sur le voile, sur la prostitution, elles auront peut-être toutes les mêmes valeurs communes, la même volonté d'arriver aux mêmes égalités, résultats ou tout ce qu'on veut, et elles seront peut-être divisées sur cette question.
Oui.
Et finalement, moi aussi ce que je trouve compliqué, c'est quand on veut donner une réponse sur une question précise. C'est difficile de répondre à la fois sur une situation très pointue et en gardant quand même un objectif plus large et en ayant du recul. Et souvent, moi, en fait, pour préciser un peu ma pensée, vos questions, elles m'aident. Pour moi, ce qui est difficile dans le militantisme et dans l'idée précise, c'est que des fois, on perd la vision un peu en hauteur et globale.
Au tout début là, de notre discussion, quand je t'ai demandé s'il y avait un élément qui avait été un peu déclencheur, tu nous as parlé du voyage en Algérie. Mm-hmm. Là, visiblement, il y avait une idée derrière de ce que tu as vu et de ce que tu aurais envie qui change.
Ah ben, j'aurais envie que les femmes soient libres de faire ce qu'elles veulent, de choisir leur vie.
Oui, mais ce que tu es en train de dire là, c'est une valeur qui n'est pas partagée par l'ensemble de la société. Et ça, c'est quelque chose, tu nous le dis d'une façon, voilà, tu en es persuadée. Donc ça, c'est quelque chose, je suis d'accord avec toi sur, sur certains sujets. Mmh. On peut discuter sur le voile, sur la prostitution, parce qu'effectivement, il peut y avoir plusieurs points de vue, plusieurs parcours, etc. Mais il y a quand même, dans le féminisme, des valeurs qui sont des valeurs communes. Pour les gens qui se revendiquent d'un féminisme, donc on peut appeler militant ou pas si on veut, de l'extérieur, par rapport à d'autres, une autre catégorie de gens qui ne pensent pas du tout qu'il doit y avoir égalité entre les femmes et les hommes.
Oui, je vois bien. Mais après, pour moi, ça reste quand même une idée générale. Et après, la mise en application, comment s'y prendre et comment faire, c'est là que c'est plus compliqué.
Ok.
C'est ça où je dis que pour moi, le détail est plus difficile.
Okay,
c'est qu'après, on voit une vision commune, mais comment on fait, comment on peut l'atteindre, parce qu'il y en a un qui dira que ça sera dans ce sens, et en face, il dira que ça sera dans l'autre sens, alors que l'idée, le but est a priori le même.
Voilà, et c'est là où on va trouver.
C'est là où c'est compliqué.
Voilà, plein de courants différents et des idées. Mmh. Bah justement, est-ce que tu es en questionnement sur un sujet quelconque en ce moment? Est-ce qu'il y a quelque chose justement sur lequel t'aimerais pouvoir débattre avec d'autres pour construire une idée un peu, une idée un peu plus claire.
Moi, il y a quelque chose qui m'interpelle beaucoup en ce moment, la différence entre l'homme et, enfin, en tout cas, la différence qu'on nous dit, qu'on nous donne dans la société sur l'homme, sur la femme.
Au niveau biologique, non.
Non, sur les constructions de la société.
Oui.
Il y a qu'à prendre, voilà, les catalogues de jouets. Pour les enfants, donc la perceuse pour le garçon et le fer à repasser pour la petite fille, les habits bleus pour les garçons, les habits roses pour les filles, voilà, toutes ces constructions. Et je me dis quand même, ça a été un travail de longue haleine pour en arriver à cette dissociation entre les hommes et les femmes, et que finalement, on est tous des êtres différents et qu'on peut certainement trouver un homme et une femme qui vont être plus proches que de une femme et une autre femme, enfin j'en sais rien, mais cette si grande dissociation des deux me paraît étrange.
Et comment ça s'est construit, c'est ça
ça, je pense que comment ça s'est construit, on pourrait y passer des heures et des heures et des heures, ce serait certainement passionnant, mais qu'est-ce qu'on pourrait faire, surtout pour peut-être déconstruire ça, ou en tout cas laisser la possibilité à chacun d'être qui il est, finalement, et de pas... ne pas essayer d'aller se conformer dans des choses, parce que finalement, vouloir se conformer à des modèles, en général, on s'y perd, et ça fait finalement plus de dégâts, des fois, que de juste pouvoir être soi-même, et du coup être bien, quoi, en étant.
Les stéréotypes de genre, c'est sûr qu'il y a encore du travail. Moi, je trouve que c'est très intéressant d'entendre les doutes d'une féministe qui construit sa pensée. Et ça montre aussi que les féministes ne sont pas nécessairement des personnes fermées aux idées des autres. Alors Anaïs a choisi pour conclure son interview un titre de Joan Jett, Bad Reputation.
And
Ça y est, vous êtes réveillée. Vous êtes sur Radio B, c'était Bad Reputation de Joan Jett, choisi par Anaïs. Dans ce morceau, le message est clair, je suis une femme, je fais ce que je veux, j'ai mes idées et peu importe ma réputation.
Et ça, j'avais compris.
En parlant d'idées, le principal questionnement d'Anaïs concernait les différences sociales entre les hommes et les femmes, les stéréotypes de genre donc. Et ces stéréotypes se retrouvent notamment dans la sexualité. Justement, ce mois-ci, Joël, tu as choisi de partir en immersion dans un atelier d'éducation à la sexualité. Alors, est-ce qu'on y déconstruit les stéréotypes de genre ?
Alors, Alicia, il faudrait éduquer les enfants à l'école dès le plus jeune âge. C'est ce qu'on entend trop souvent dès qu'un expert traite d'un sujet de société à un moment ou à un autre. Il sous-entend, mais on n'en parle jamais à l'école. Je me suis donc invitée, il y a quelques semaines, à une formation organisée par le rectorat de Lyon. Le titre de la formation, Éduquer à la sexualité, tout un programme. Quand j'arrive dans la salle, une vingtaine de participants échangent sur les lois. On parle de viol, prostitution, mariage forcé. On discute de situations vécues, comment se situer en tant que professionnel ou en tant qu'adulte. Lors d'une pause, les stagiaires nous disent leur raison de suivre cette formation. Tendez l'oreille, la salle de classe était grande et le son un peu lointain. Merci de faire abstraction de tous les sons parasites.
Une certaine évolution de leur langage et puis de la façon dont ils se parlent entre eux. Il y a quand même une éducation à faire là-dessus, sur les rapports filles-garçons. Et puis sur. Moi j'étais très. Je suis très intéressée sur tout ce qui est rapport à l'image. Et on est dans une société où ils sont constamment face à ça, sans forcément de décryptage. C'est des sujets tabous dont ils ne parlent pas en famille, dont ils ne vont pas forcément dire à leurs parents quand ils ont vu une image qui les choque. Je pense que là, on a quand même un rôle à jouer sur l'explication et sur comment on leur apprend à appréhender ça. Et puis voilà, et puis il faut qu'ils aient aussi, ils ont peu de ressources, je trouve, mis à part taper sur Internet des questions qu'ils peuvent avoir. Et ce n'est pas forcément les réponses qui, à mon avis, vont leur être le plus utiles.
Moi, je suis infirmière scolaire au collège.
D'accord. Formatrice, coordinatrice, pas enseignante.
Et dans les établissements, bien souvent, les jeunes vont voir les infirmiers, infirmières. Et est-ce que dans votre formation initiale, vous avez ce qu'il faut pour répondre aux jeunes ou si c'est une représentation de ce qu'on imagine qu'une infirmière sait répondre ?
Alors, on imagine qu'une infirmière sait répondre. Moi, là, je suis en plus stagiaire, je viens d'avoir le concours. Je travaille aux urgences avant, donc bien sûr, j'ai vu des mineurs en danger, et voilà, sauf qu'aux urgences, on n'est pas toute seule, on est au moins 5 infirmiers. Moi, je me suis sentie un petit peu quand même démunie, même s'il y a ces formations, là, justement, éducation à la sexualité qui nous apporte quand même pas mal de choses. Et puis, moi, j'ai Patricia aussi, mon infirmière conseillère technique, quand j'ai des doutes. Mais après, à part ma formation aussi initiale à l'école d'infirmière, on apprend des choses, mais enfin. Personnellement, je ne me sens pas très à l'aise. En tout cas, dans cette première année, c'est aussi pour ça que j'ai demandé la formation.
Et autrement, vous êtes enseignant de quoi, alors ?
Documentaliste.
Doc.
Français.
Histoire géo.
Espagnol. Mathématiques.
Physique.
Alors, en SVT, on peut imaginer, parce que dans les programmes, hein, il peut y avoir des questions qui surgissent par rapport aux différentes questions abordées. Mais en physique, je ne comprends pas. Qu'est-ce qu'un professeur de physique a à voir avec l'éducation à la sexualité ? Qu'est-ce qui vous a poussé, alors ?
Exactement les mêmes raisons que ma collègue a évoquées tout à l'heure. C'est-à-dire, quand on voit les jeunes, la façon dont ils parlent, on sait qu'il y a quelque chose à faire là-dessus pour les aider.
On y va en tant qu'adulte en fait, de l'établissement, et puis après chacun, de par sa spécificité, nous en tant que professeur documentaliste, on peut apporter des choses un peu différentes. Mais on y va, je pense, en tant qu'adulte d'établissement pour pas faire partie en fait, après de projets, en conduire.
Et les élèves, dans tous les cas, qu'on soit prof de maths, d'histoire géo, de physique, c'est de leur apporter quelque chose Et quand on se rend compte que voilà, ils ont des questions ou qu'on a à traiter des situations parfois en tant que prof principal ou choses comme ça, on a envie aussi d'avoir quand même des pistes à leur donner et puis un cadre, essayer d'utiliser on va dire les bons mots. Alors évidemment spontanément on a des idées, des choses qui nous viennent, mais on n'est pas sûr de pouvoir les aider au mieux, donc du coup c'est aussi pour ça que la formation est importante. Pour redonner aussi un cadre, on va dire, législatif, parce qu'on ne connaît pas toujours tous super bien la loi, ou on ne connaît pas toujours tous super bien le corps humain, et enfin voilà, quand on n'est pas prof justement de MC pour la loi ou de SVT pour la partie, on va dire, plutôt biologique, on a besoin aussi d'avoir quelques pistes pour pouvoir mieux les renseigner, et puis voilà, leur apporter quelque chose et les aider dans leur questionnement.
Parce qu'un professeur, ce n'est pas que une discipline, c'est un relationnel avec les élèves tout au long de l'année. Et un adolescent peut en tout cas bien plus faire confiance à un professeur de physique parce qu'il le connaît depuis un certain nombre. Voilà, il a passé des heures et des heures dans sa salle. Et voilà, ça se passait bien, etc. Et lui, il va lui faire confiance parce qu'en tant qu'adulte, en lui faisant confiance, plus que quelqu'un qui pourra en effet avoir peut-être plus une spécificité pour répondre à ses questions, mais qui le connaît moins, tout simplement. Donc, enfin, je pense que voilà, c'est notre matière peut jouer, mais elle peut aussi ne pas jouer du tout. Et c'est vraiment parce qu'on est dans la relation avec les élèves. Et, donc, je pense que tout le monde et tous les adultes qui sont en contact avec des jeunes, quelle que soit leur matière, quelle que soit leur discipline et leur travail, doit être capable de répondre à des jeunes en difficulté.
Et est-ce qu'il y a quelqu'un parlait d'un projet, ça permet de rentrer dans un projet dans l'établissement, dans les établissements dans lesquels vous êtes, est-ce qu'il y a quelque chose de construit au niveau de l'éducation à la sexualité ?
Pas suffisamment, pas toujours. Donc chez nous, dans notre établissement, ça se limite à ce qu'on fait en troisième, parce que malheureusement, c'est ce qui ressortait pas mal dans les discussions qu'on avait hier, c'est que malheureusement, on n'a peut-être pas suffisamment les moyens, les heures ou les choses comme ça, pour pouvoir justement construire vraiment quelque chose dans un projet d'établissement et construire quelque chose sur les quatre niveaux. Actuellement, on est quatre professeurs, mais on n'a pas les heures pour construire sur tout. Donc on se limite à ce qu'on peut, donc les troisièmes ou d'autres niveaux.
Moi, je vais être dans un collège privilégié parce qu'on a une équipe qui fonctionne bien et il y a une équipe déjà de 6 ou 7 collègues qui sont formés. Il y a eu un creux, il y a eu des années, ça n'a pas pu être mis en place, mais cette année, il y a des interventions d'une heure et demie pour les 5e et pour les 3e. Et en fonction du niveau, différents thèmes abordés, en partenariat avec le CPEP aussi. Et c'est vrai que ça fonctionne bien et c'était quand même inscrit dans le projet d'établissement. On a un axe qui parle d'apporter une culture commune à tous les élèves. Et donc, du coup, ce genre de projet s'inscrit là-dedans. Mais ce n'est pas le cas.
Ça reste pas assez par rapport à ce qui est prévu,
c'est sûr. Mais c'est déjà mieux que dans certains cas.
Oui, c'est important de dire que ce qu'on a pu remarquer hier, c'est que dans la loi, il est indiqué que les élèves doivent avoir dans leurs horaires des heures d'éducation à la sexualité et que dans nos établissements, ce qu'on remarque, c'est que ce n'est pas du tout le cas. Et c'est ce qui nous freine beaucoup, c'est qu'on a du mal à dégager des heures pour pouvoir faire ça, alors que c'est normalement un droit pour les élèves et que ces heures devraient être là.
Et que c'est un besoin aussi.
Oui. Nous, dans notre établissement, on a aussi la chance d'avoir une grande équipe formée, une direction qui nous soutient là-dessus et qui nous donne des heures de réunion pour qu'on puisse organiser des plannings et qui réaménage les emplois du temps. Et du coup, cette année, on devrait pouvoir mettre en place sur 3, voire 4 niveaux les interventions. C'est à chaque fois 2 heures et on a 2 séances par an. Alors ça dépend des niveaux, mais l'année dernière, on avait réussi à faire ça sur les 3e, 4e aussi, il me semble. Donc on passait en construction et en développement.
Alors, plusieurs d'entre vous disent que quand on n'a pas beaucoup de temps, on travaille avec les 3e. C'est le niveau le plus... Le plus quoi ? Le plus à risque ? Le plus où il faudrait faire quelque chose ?
Le plus proche de l'activité sexuelle réelle ou future, quoi.
Vous supposez ?
Oui, c'est ça.
Dans nos échanges hier, on disait que ça serait bien d'avoir un peu une espèce de parcours d'éducation et donc du coup une progression parce que les questions ne sont pas les mêmes en 6e au moment de la puberté que justement en 3e. Et que voilà, si on pouvait avoir des moyens pour mettre en place... surtout le collège et puis ensuite au lycée aussi, hein. Ça serait formidable.
Ça serait l'annonce.
Une vraie volonté institutionnelle pour le mettre en place. Il n'y a pas que notre volonté à nous d'enseignants, il faut qu'il y ait un cadre autour qui nous permette.
Merci à vous tous.
Je sais que pour la stérilisation chez les adultes, généralement, donc les critères, c'est d'avoir plus de 40 ans, d'avoir déjà eu des enfants, mais un entretien psy, c'est, ça ne se fait pas du tout à la légère pour un adulte. Alors, en adolescent, ça me semble impossible. Enfin,
oui, mais je demandais juste légalement. Je sais pas si. À 20 ans, on peut. Mais...
Je vois en touche. Je ne sais pas si un cadre légal. Si, comment est prévu le texte légal. Je connais les usages, voilà. En effet. Hein.
Il y a d'autres
pays où ça se fait. Chez les majeurs, il n'y a pas de consultation psy. Hein.
Non, c'est pour c'est non. Le gynéco. Alors.
C'est avec le gynécologue. Voilà, c'est ça. C'est ça. Par contre, la loi a changé, alors je ne sais plus depuis quand, mais c'est assez récent. Avant, il fallait pour une femme l'autorisation de son mari. Maintenant, mais ce n'est pas très vieux, et, je ne sais pas, il doit avoir 10 ans à peu près. Ouais.
Et vice-versa ?
Alors vice-versa, je ne sais pas, mais non, c'était...
Alors ce jour-là, la formation s'adresse spécialement à des personnels de l'éducation nationale qui sont inscrites sur le plan de formation. Elle se déroule 2 fois 3 jours sur l'année. Il existe une autre formation qui est proposée conjointement par le rectorat et par une plateforme éducation et promotion pour la santé. Et elle, cette formation, elle s'adresse aussi aux autres institutions qui accueillent des jeunes. Par exemple, les établissements d'accueil de personnes handicapées ou la PJJ, par exemple. Ou alors les gens du centre de planification familiale qui sont venus se former dans ces lieux, l'AVEMA aussi. Alors ces formations, quand même, elles existent depuis 30 ans. C'est quand même pas rien, ça représente quand même plusieurs milliers de personnes qui ont été formées. Elles sont organisées sur tout le territoire français. Donc,
Alors moi, il y a un truc partout. Qui m'a interpellée là, dans le reportage qu'on vient d'entendre, c'est quand même qu'on parle quand même droit des femmes aussi, même dans les sessions d'éducation à la sexualité.
C'est très, tous les sujets abordés, ça aborde, en fait, ça touche beaucoup, beaucoup de sujets. Alors maintenant, la parole, on la donne aux deux formatrices. Il y a Véronique Promonet, qui est infirmière, et Patricia Lacroix, qui est une personne qui est responsable, infirmière conseil à l'inspection académique, et donc elles nous en disent un peu plus sur le contenu.
Oui, on parle d'éducation à la sexualité à l'école parce que ça fait partie des missions des professionnels de l'éducation nationale, qu'ils soient infirmiers, assistants sociaux ou enseignants. Pour parler de ces questions, donc, il y a un cadre législatif depuis la loi de 2001 sur la contraception et l'avortement. Cette loi a décliné ensuite une circulaire de 2003 qui pose vraiment un cadre législatif pour parler donc de ces questions-là, de l'éducation à la sexualité en général, c'est-à-dire dans toutes ces dimensions, dimension biologique, bien sûr, avec tout ce qui va être de l'ordre de la SVT, de la prévention, des grossesses, prévention sida, ce genre de choses, mais aussi toute la dimension, on va dire, psycho-affective, où on parle aussi des comportements, de l'estime de soi, des compétences psychosociales, et puis bien sûr, la part la plus importante de l'éducation à la sexualité, c'est le champ biologique, et donc parler de tout ce qui va être de l'ordre du social, avec l'accès aux images, les médias, l'accès aux images pornographiques, le sexe et l'argent, on va dire, avec la publicité, toutes les choses, le code civil, le code pénal. Donc là, on est en train justement de travailler la question des normes, des valeurs et des lois dans la sexualité. Donc voilà, c'est quelque chose de très vaste. Cette circulaire, elle nous dit un petit peu ce qu'on parle en éducation à la sexualité, mais elle nous fixe vraiment le cadre institutionnel. Elle nous fixe également le cadre par rapport aussi au partenariat. Voilà.
Et comment ça se fait qu'on fait de l'éducation à la sexualité à l'école ? Qu'est-ce que la sexualité vient faire à l'école, en fait ?
Alors la sexualité, c'est vraiment une composante qui existe de la naissance, voire même avant la naissance, et qui nous accompagne tout au long de notre vie. Elle est là présente, elle nous agite à tout moment. Et donc justement, l'éducation à la sexualité à l'école, elle est là aussi pour donner des valeurs communes. Elle n'est pas là du tout pour juger ce qui est fait dans les familles, elle n'est pas là pour juger les valeurs culturelles, religieuses ou autres, pour mettre des mots derrière les choses, pour... Et pour parler de sexualité dans un cadre aussi, dans un cadre, on va dire, légal, avec les lois, les valeurs qui sont ici et maintenant en France.
Alors, l'école, ça commence tôt et puis ça va aussi jusqu'au lycée. Et donc, vous parliez tout à l'heure d'une circulaire, c'est ça? Et alors, elle concerne quel âge, quel genre d'enfant?
Alors, cette circulaire 2003, elle prévoit que l'éducation à la sexualité commence dès la maternelle et se poursuive jusqu'à la terminale à raison de 3 séances par an, donc de la maternelle à la terminale. Alors après, ce sont des séances qui ne sont pas étiquetées comme telles. On ne va pas dire aujourd'hui on fait éducation à la sexualité au premier trimestre, au deuxième trimestre, au troisième trimestre. Ça se fait aussi dans les enseignements, par exemple au collège en éducation morale et civique, où on va parler de l'égalité fille garçon. Ce n'est pas étiqueté comme éducation à la sexualité, mais on est là-dedans. Quand en français, un travail est fait sur la relation à l'autre, sur le sentiment amoureux dans la littérature, on est aussi en train de faire de l'éducation à la sexualité, puisqu'on va répondre à des questionnements sur le comportement amoureux, comment on dit qu'on est amoureux, comment on le sent. Donc il y a différentes façons d'aborder ces questions sans les étiqueter comme éducation à la sexualité. Et ça commence à la maternelle et ça se poursuit jusqu'à la terminale. Je m'appelle Véronique Promonet, je suis infirmière dans un collège et dans son secteur, c'est-à-dire les écoles primaires qui alimentent le collège. Donc je suis des élèves entre la grande section de maternelle et puis la troisième. Et j'organise des séances d'éducation à la sexualité dans mon collège avec une équipe d'enseignants, CPE, enfin différents personnels qui sont formés, qui ont fait cette formation pour justement organiser des séances d'éducation à la sexualité avec les élèves.
Alors, il faut dire aussi que Véronique, à un certain moment, travaillait aussi dans les écoles primaires. Elle intervenait dans les écoles primaires. Alors, évidemment, l'école accueille les enfants ou des jeunes pendant près de 10 heures par jour pour certains. Autant dire que le temps scolaire fait partie vraiment de leur vie, autant que le temps passé en dehors de l'école. C'est une lapalissade, évidemment, de dire ça, mais ça implique que c'est là, c'est à l'école, que le jeune apporte ses interrogations, ses préoccupations, ses problèmes. Et si pendant les cours, les préoccupations extérieures des jeunes ne surgissent pas, par contre, dans les séances d'échange, où la parole se libère, les questions de tous ordres fusent. Par exemple, les camionnettes blanches et la prostitution, la relation entre les filles et les garçons dans la cour, les mains qui se baladent, par exemple, les tenues, comment t'es habillée, t'as une tenue de pute, ou un truc comme ça, ça ressort tout le temps, le port de la jupe, le port du voile, les rites de passage dans les différentes cultures, de temps en temps, c'est intéressant aussi, les lois écrites, les lois de groupe, enfin, tous ces sujets ressurgissent. Ce que j'ai trouvé intéressant ce matin, c'est que ici, j'avais vraiment l'impression de me retrouver comme quand je faisais des séances d'éducation à la sexualité, avec des questions qui fusent comme ça. Je trouvais ça super.
Alors, je suis très contente, Joël, que tu aies perçu l'animation de cette façon-là, puisque c'est un des objectifs de cette formation d'animateur, eh bien, que les personnes cernent bien les objectifs des séquences en éducation à la sexualité, sachent mener et se positionner en tant qu'animateur de débat, donc laisse le temps de la réflexion, de la construction de la réponse par le groupe, donc nos enseignants qui sont majoritairement présents lors de cette formation sachent rester en retrait, vraiment favoriser et accompagner la construction de la réponse par le groupe, puis à un moment donné synthétise les échanges, amène un certain nombre d'informations complémentaires, comme par exemple tout à l'heure, quand j'ai donné quelques ressources sur la violence faite aux femmes, ou quelques apports législatifs, des connaissances. Mais vraiment laisser entièrement la place aux élèves, entre eux, de construire leurs réflexions et de pouvoir exprimer les valeurs avec lesquelles ils se construisent, les valeurs qu'ils ont entendues dans leur famille, les normes qu'ils ont constatées dans notre société, et puis petit à petit, peut-être les re-questionner, mieux les comprendre, peut-être se positionner différemment ou pas. Mais en tout cas, les échanger entre eux, pour voir que cette question de la sexualité humaine, elle peut être vécue de manière différente en fonction des valeurs à la fois familiales, des valeurs culturelles, des valeurs personnelles, mais toujours, bien sûr, dans le respect de la loi française et des valeurs humanistes et des valeurs de la République.
Oui, alors en fait, on pourrait imaginer que l'éducation à la sexualité, on se retrouve dans des cours, et en fait, on n'est pas du tout dans des cours. Tu dis qu'on est vraiment dans de la discussion, en fait.
On est vraiment dans de l'échange, dans du débat. Et voilà. Et nous, nos formations d'animateurs, on essaye de les construire de la même façon pour que nos professeurs soient vraiment en capacité de les mener de cette façon-là avec les élèves.
Alors, tu as quand même un poste un peu spécifique au niveau du département. Tu pourras nous en parler, quelle est ta fonction. Et donc, du coup, tu es quand même bien placé pour savoir ce qui se passe dans l'ensemble du département, dans les établissements. Est-ce qu'il y a beaucoup de projets qui sont menés dans les établissements? Parce qu'on dit toujours qu'il n'y a jamais rien qui est fait dans l'éducation nationale. Alors, toi, tu es quand même la personne du département qui peut nous dire ça.
Je suis infirmière conseillère technique auprès de l'inspectrice académie, et un des dossiers que l'inspectrice m'a confié est le CESC à son échelle départementale, mais aussi à son échelle de l'établissement. Donc le CESC, c'est le comité d'éducation à la santé et à la citoyenneté. C'est une instance que nous retrouvons dans chaque établissement et qui a pour objectif de définir en équipe la politique de promotion de la santé à l'interne de l'établissement. Donc, dans le concret, c'est dans cette instance qu'on va définir les thèmes qu'on va aborder lors des différentes années scolaires sur le champ de la santé et de la citoyenneté. Beaucoup, beaucoup, beaucoup d'établissements travaillent la question de l'éducation à la sexualité.
Il n'y a pas très longtemps encore, j'entendais à la radio qu'il ne se fait rien dans l'éducation nationale. Moi, ça me fait hérisser les poils, et toi ?
Oui, d'autant plus que conformément à ce que dit la circulaire de 2003, il y a certes ces séquences obligatoires. C'est vrai que le texte est très, très, très ambitieux, hein, consacré spécifiquement aux séquences d'éducation à la sexualité trois fois par an tout au long de la scolarité. C'est très, très, très ambitieux. Donc, dans les temps d'enseignement, il y a aussi une part d'éducation à la sexualité, même si par l'organisation de la séquence ne permet pas toujours ce temps d'échange précieux, de débat qui nous est cher. En tout cas, on a une marge de progression, mais on est loin du fait qu'il n'y a rien qui se passe à l'éducation nationale sur ce champ-là.
Merci, je vous remercie toutes les deux.
C'est vrai que tu nous l'as bien caché, Joël, mais tu sais très très bien de quoi tu parles dans ce dossier, puisque l'éducation à la sexualité, c'était ton métier.
Ça a été une part de mon métier pendant quelques années, j'avoue, et c'est pas pour rien que je me retrouve ici aussi. Mais enfin, pour répondre à ta question de départ, Alicia, comme on a pu l'entendre dans ce reportage, les stéréotypes de genre sont analysés en cours, ben, que ce soit de français, d'art plastique ou dans d'autres disciplines aussi, où on travaille les images, par exemple. Pour répondre à ta question, donc, je dirais que les sujets abordés lors de ces séances d'échange servent plutôt à donner des repères. C'est plutôt un moment de confrontation des idées et de représentation entre les jeunes, plus un lieu de construction de la pensée, en fait. C'est un enfant, parce qu'en fait, un enfant, ça se construit. Ce sont les adultes qui auraient un travail d'analyse à faire, qui pourraient, en fait, les amener à reconstruire différemment une pensée. Voilà.
Plus qu'une déconstruction.
Plus qu'une déconstruction chez des petits. Voilà, donc sans transition, quoique, on continue avec notre brique d'infos droit devant.
Dans nos précédentes émissions, nous vous avons parlé du Tour de l'égalité. Alors, pour rappel, le Tour de l'égalité, c'est une initiative du secrétariat chargé de l'égalité entre les femmes et les hommes. L'idée était de recueillir localement et pendant plusieurs mois la parole des citoyens et citoyennes, donc sur des thématiques comme les violences sexistes ou l'égalité au travail. Dans l'un des groupes ont été composés dans les points Info Emploi, à l'AVEMA, donc l'AVEMA qui est l'association d'aide aux victimes, au CIDFF entre autres. À la suite de ces ateliers, un petit livret a été édité. Il est intitulé « Ce que pensent les femmes et les hommes de l'un et leurs propositions ». Alors, qu'en est-il ressorti ? Bon, une nécessité de partage des tâches ménagères, les problématiques de garde d'enfants, les inégalités au travail. J'ai envie de dire rien de nouveau par rapport à ce que les nombreuses associations et collectifs féministes font remonter depuis des années. En revanche, ce qui ressort clairement dans l'un par rapport aux violences envers les femmes, c'est la difficulté à mettre en place l'ordonnance de protection et l'éviction du conjoint du domicile en cas de violence, et sans parler des délais d'attente par rapport aux plaintes également. Une idée intéressante qui est ressortie sur cette thématique que j'ai pu relever là dans ce petit livret, créer un système de parrainage entre des femmes anciennement victimes de violences qui pourraient soutenir les femmes qui en sont actuellement victimes. Encore plus de solidarité, de soutien, je pense que ça peut ne pas faire de mal.
Comme ça existe pour les personnes qui sont atteintes d'alcoolisme, des choses comme ça, en fait,
ouais.
C'est ça.
Hein. Ouais, je ne savais pas que ça existait, mais oui. Et puis, à la lecture de ce livret, je me suis dit que malgré tout, il y avait encore de nombreux stéréotypes de genre qui subsistaient et donc qu'il fallait continuer encore et encore à informer. On a par exemple une des participantes qui disait que les femmes étaient naturellement plus douées que les hommes pour l'éducation des enfants.
Mais voyons.
Bah oui, c'est dans les gènes. On attend quand même maintenant de voir ce que le gouvernement va faire de tous ces constats et toutes ces propositions.
Alors, je pense quand même que les choses étaient bien orchestrées, hein, parce qu'il y a eu le tour de l'égalité et on savait qu'après, il y a un projet de loi qui allait être déposé. Alors, justement, le 21 mars, le compte-rendu du Conseil des ministres, le projet de loi lutte contre les violences sexuelles et sexistes, a été présenté. Alors, pour faire court et pour rappeler quand même des choses que vous avez peut-être déjà entendues, les différents thèmes proposés dans ce projet: allongement du délai de prescription de 20 à 30 ans pour les crimes sexuels commis sur les mineurs et le délai court à partir de leur majorité. Voilà. Certaines associations féministes avaient demandé qu'il n'y ait plus de temps, du coup. Hein. C'est déjà pas mal. Hein.
Ouais.
Autre point, renforcement de la répression des abus sexuels commis sur les mineurs, avec l'inscription dans le code pénal de l'interdiction des relations sexuelles avec un mineur de moins de 15 ans. Donc, en fait, il va y avoir une majorité sexuelle qui va rentrer dans les textes de loi, alors qu'avant, ça n'existait pas, la majorité dans les textes. Troisième point, le cyberharcèlement fait son entrée dans le code pénal, dans la rubrique « délit harcèlement sexuel ou moral ». Et puis n'oublions pas, une amende forfaitaire de 90 euros pour tout outrage sexiste dans la rue. Bonjour les aubergines et les aubergins qui vont être obligés de mettre en place ça. Voilà, tout à l'heure, Alicia, tu parlais de violence envers les femmes. Donc, quand même, il faut parler d'un nouveau féminicide.
Ouais, c'est encore d'actualité.
Ouais, c'est encore d'actualité. Marcelle Franco, militante féministe et conseillère du Parti Socialiste et Liberté de la ville de Rio de Janeiro, est morte assassinée dans sa voiture le 14 mars. Marielle Franco militait contre la violence et en faveur des droits sexuels et reproductifs des femmes. Elle a été exécutée parce qu'en fait, on parle d'exécution politique, suite à des prises de position contre la barbarie des interventions de la police militaire dans les favelas. Voilà, on n'a pas fini d'en entendre parler, ou du moins de voir certains articles là-dessus. Si, ghetto woman, minha gangue é do ghetto, minha gangue é do ghetto, e elas são más, e elas são más. Minha gangue é do ghetto, e elas são más. Representam o que vários dizem jamais. Provido nosso doce sem censura, como se tivesse uma segunda chance. Isso não é um sonho, mesmo se fosse, você nunca vai resistir. Sua vontade é tá aqui, e a nossa é fazer tu engolir toda a estratégia, porque nabo se equivoca. Quem pode admitir, não dá pra resistir. Mantemos as tanderas e os dogs no nosso jogo. Sabemos quem cola e não adianta passar o rodo. Se no seu bolso tem dinheiro, não vem pagar de louco. O digão multiplica o seu, que hoje tá tendo em dobro. Porque conhece o nosso estilo, ganhar dinheiro e se gastar, deixar-se rico. Gastaríamos o tempo inteiro. Fica ligeiro, meu game não é passageiro. E o doce tá fazendo efeito. Minha gangue vem do gueto pro mundo, só respeito. Essência vem de dentro, não tem a ver com peito. Mesmo sendo instrumentos, corpos e monumentos, vestes de julgamentos, drogas e seus efeitos. Maconha nos deixou louconas, anjos e demônios deitados em camas. Prefere os criminais, mas não.
chama, vivem suas e tramas, bucetas e chanas. Não dá pra negar que elas são más, elas são más, elas são más, elas são más. Minha gangue é do gueto e elas são más. Representam o que vários dizem jamais. Elas são más, elas são más, elas são más, elas são más.
Vous êtes bien sur Radio B, nous venons d'écouter Ghetto Woman de Lay, rappeuse brésilienne. Il n'y a pas que l'humour, ça continue avec la rubrique Culture Else.
Chut, Culture Else.
Avec Joël, ce mois-ci, on vous a trouvé quelques petites sorties féministes. C'est le moment de sortir vos agendas. Vieille, moi ? Jamais ? C'est le titre des ateliers menés par la Diesel Company sur le thème du vieillissement. Mais ne vous méprenez pas, les ateliers sont ouverts à toutes de 7 à 107 ans au moins. Vous pouvez assister, vous pourrez assister aux restitutions publiques. Alors il y en a plusieurs, hein, le 24 mai, le 25 mai, le 19 juin et le 20 juin. Je vous laisse aller sur le site de la Diesel Company pour avoir plus de détails sur les lieux.
Alors, vieille ou jeune, ben, on ne saurait pas leur donner de leur âge. Toutes semblables en apparence, campées dans le sol, ancrées. Le vent ne peut pas les faire vaciller, toutes semblables dans leur force et leur détermination, mais toutes différentes dans leur expression et leur mouvement. Sabine les nomme armées de terre cuite. La matière première est brute, au toucher elles sont râpeuses ou douces, histoire d'identité. Les flammes qui les ont léchées à la cuisson les ont transformées un moment en sorcières, mais leur force les a gardées en vie. Seules les photos de Sabine apprises, que Sabine a prises montrent ce passage entre cru et cuit. Sabine Lee, c'est elle qui a créé ces femmes de terre, étrange ressemblance entre ces femmes et leur créatrice. Ces femmes ne laissent pas indifférentes, vous pouvez les rencontrer du mardi au jeudi de 14h à 18h et le vendredi de 14h à 17h30 à l'Allegro, dans la salle de l'Allegro à Miribel. Sabine Lee est sur les lieux de 19h à 20h30 tous les soirs de spectacle, le prochain jeudi prochain 5 avril. Elle vous attend pour un finissage de l'expo en beauté le 13 avril, donc rue de la République, place de la République à Miribel.
Du Girl Power, samedi 21 avril de 19h à 1h à la Tannerie. C'est une soirée spéciale programmation quasi 100% féminine. C'est la deuxième édition organisée par l'association 98 décibels. Au programme du rap, du rock funk, du rock garage, avec un groupe local tout récemment formé, il s'agit de Gru. À noter également la présence sur scène du groupe de rock Partners qui nous vient du Canada. Et puis la soirée se finira en mix rock vintage avec DJ Bonnie. L'entrée est à prix libre. Alors c'est vrai qu'on peut se demander l'intérêt de mettre en lumière les femmes pour une seule soirée alors que les programmations sont majoritairement masculines toute l'année. Bon, ben c'est un peu comme les quotas, hein, c'est genre dire c'est un moyen, pas une fin. Et en parlant de fin, notre émission touche à sa fin. Vous venez d'écouter Il n'y a pas que le 8 mars, une émission animée par Joël et moi-même, Alicia. Merci, un grand, grand merci à Pauline, notre technicienne, pour la réalisation. Et puisqu'en une journée, on ne peut pas célébrer toutes celles et tous ceux qui ont fait avancer les droits des femmes vers l'égalité, parce que 24 heures, c'est trop peu pour aborder l'égalité dans le travail, le droit de vote pour les femmes dans le monde, l'utilisation de l'image des femmes pour vendre du shampoing, une cuisinière ou une voiture. Rendez-vous le lundi 7 mai pour notre prochaine émission. En attendant, vous pouvez réécouter cette émission en podcast sur www.radio-b.fr. Restez à l'écoute de Radio B. À suivre à 20h Ping Pong, votre émission musicale électro-hip-hop. Et nous vous souhaitons une excellente fin de soirée sur Radio B.